Donc cette communication porte sur la question du halal comme émergence d'un problème public marqué par l'organisation de mobilisation individuelle et collective sur Internet. Et c'est là-dessus que je vais centrer ma communication aujourd'hui. Donc des mobilisations qui sont marquées à la fois par des acteurs traditionnels comme les associations et aussi par des acteurs sociaux qui dépassent le cadre du militantisme traditionnel. Alors ces différents types d'acteurs contribuent à l'expression dans l'espace public de controverses grandissantes sur le halal, dont les médias musulmans et surtout les médias numériques, notamment, se font les relais. Alors la controverse, qui est l'expression de points de vue opposés, constitue un enjeu sociopolitique dans la mesure où elle introduit un débat sur des questions scientifiques ou sur des questions éthiques qui touchent toute ou partie de la société et fait intervenir une pluralité d'acteurs sociaux. Alors plusieurs auteurs ont souligné le rôle de la télévision ou des médias de masse en matière de propagation des controverses. Peu d'études, toutefois, ont été consacrées jusqu'à présent au web participatif, c'est-à-dire à l'utilisation d'Internet et à la propagation des controverses, en tout cas via Internet. Le web permet pourtant la mobilisation d'importantes ressources profanes sur des thèmes spécialisés, y compris relatifs à la religion, comme je vais l'exposer tout à l'heure. Alors, la popularisation du web 2.0 et la multiplication des prises de parole sur Internet facilite la participation d'un public a priori non spécialiste à la controverse. Alors cette recherche s'inscrit dans la continuité de mes recherches comparées sur les médias musulmans maintenant depuis une dizaine d'années, notamment grâce à plusieurs bourses européennes et puis grâce à un projet d'excellence européen, Minority Media, que j'ai dirigé de 2006 à 2010 à l'université de Poitiers. Et cette communication en est pour partie le prolongement. Alors en ce qui concerne les hypothèses et la problématique, donc cette recherche part de l'hypothèse selon laquelle Internet rend possible la libre circulation de la parole au sein des communautés musulmanes de France sur le thème de plus en plus marketisé et médiatisé du halal. Le projet européen Minority Media, le colloque qui a suivi, et quelques publications également qui ont suivi, ont permis de mettre en lumière la façon dont la démocratisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que la popularité de l'Internet social, aussi la popularisation plutôt de l'Internet social, les blogs, les wikis, les sites de réseaux sociaux, modifie les pratiques de communication tant intracommunautaires, donc à l'intérieur de la communauté ou des communautés musulmanes, mais aussi les pratiques de communication interculturelles. À son tour, également, l'émergence de nouvelles pratiques sociales et communautaires affecte les processus identitaires individuels qui se construisent par l'interaction sociale. Alors, sans pour autant verser dans la thèse du déterminisme technologique, qui voudrait que les rapports sociaux soient dépendants de mutations technologiques et soient contraints aussi par ces mutations technologiques, il convient toutefois de se poser la question du rôle des médias électroniques. Rôle, d'une part, dans les représentations identitaires, que ces représentations soient individuelles ou collectives, et d'autre part, dans les mobilisations et ces actions collectives. Dans l'esprit de cette problématique assez générale, des auteurs travaillent depuis les années 90, alors surtout là dans le monde anglo-saxon, sur le rôle des médias traditionnels, des minorités ethniques. Je pense notamment aux travaux précurseurs du sociologue de Chicago, Robert Ezra Parks, notamment, qui est un ancien journaliste et qui a travaillé sur les médias des immigrés aux États-Unis dès le début du XXe siècle, puis à ceux de contemporains, comme ceux de Charles Husband et Simon Cottle en Grande-Bretagne, puis un petit peu plus tard, Hamid Nafissi, qui a travaillé sur les médias des Iraniens aux États-Unis, Leila Benamor-Mathieu sur les médias des Latinos aux États-Unis aussi, sur Myria Giorgio sur les médias des diasporas, etc., pour ne citer qu'eux. Donc dans le siège de ces travaux, Eugenia Sapiera a commencé, elle, à travailler sur la blogosphère musulmane en Grande-Bretagne, ainsi que sur l'islam politique en ligne. Alors c'est dans cet environnement scientifique-là et à l'occasion d'une bourse postdoctorale Marie Curie que j'ai commencé aussi mes recherches sur les médias musulmans. Au cours de la décennie 2000, je constatais le développement puis l'expansion de deux phénomènes. Celui des médias musulmans dans les pays européens d'immigration d'une part et celui de la thématique du halal qui commençait à émerger justement dans ces médias dits musulmans, en tout cas qui se définissent eux-mêmes comme des médias musulmans. Depuis quelques récentes années, les frontières entre les problématiques liées au halal et aux productions médiatiques ont commencé à se brouiller, au point que désormais, une multitude d'acteurs contribuent à rendre visible et à médiatiser la production et la consommation, les deux aspects étant importants, du halal. Bien entendu, cette multitude d'acteurs ne parle pas d'une seule voix. Les intérêts divergent entre militants, entre lobbyistes, entrepreneurs, associations de consommateurs, comme on va le voir. Et c'est ainsi que sont apparus dans le champ même des médias musulmans des controverses internes aux communautés musulmanes sur la croissance de produits, mais aussi de services labellisés halal par leurs concepteurs. C'est particulièrement le cas sur Internet. Alors pour analyser ces controverses, je m'appuie notamment sur les science studies qui consistent à voir dans les processus de dispute que sont les controverses des actions collectives conduisant à la transformation du monde social. Ces affaires, ces scandales, ces polémiques sont envisagées comme des occasions pour les acteurs sociaux de remettre en question certains rapports de force au sein des communautés musulmanes, mais aussi avec la société dite majoritaire. Dès lors, la question qui me paraît importante ici est que fait le processus conflictuel aux acteurs et aux institutions qui s'y impliquent ? Que fait-il à l'ordre social ou socio-technique lui-même ? Comment l'échange-t-il ? L'objectif de cette communication n'est pas de montrer l'effectivité ni de dresser une sociographie des acteurs, même si j'ai pu le faire par ailleurs, des acteurs qui se saisissent de la possibilité offerte par Internet pour contribuer aux controverses, mais il s'agit plutôt de montrer aujourd'hui comment ces acteurs peuvent se saisir d'Internet et des médias numériques et quels en sont les effets sur la société, enfin, d'un point de vue sociologique. Alors, rapidement, la méthode et le corpus. Donc, le corpus, je me base là aujourd'hui pour cette communication sur 35 articles issus d'Ouma.com et 89 issus de SaphirNews.com, du courrier des lecteurs, des publicités aussi pour les produits ou les services halal, pendant la période donc comprise de janvier 2006 à octobre 2013. Et la méthode étant une méthode qualitative, essentiellement de l'analyse de contenu et de l'analyse de discours. Et je ne l'ai pas mis ici, mais aussi de la rencontre et des entretiens avec quelques journalistes. Alors, le contexte aussi, assez rapidement, parce qu'on l'a évoqué hier, mais j'ai prévu plusieurs diapos représentant notamment quelques articles sur différents produits et services. Ce qu'on constate dans ce contexte, c'est qu'en moins d'une décennie, le secteur commercial du halal a augmenté de manière exponentielle. Je pense qu'on l'a vu suffisamment détaillé hier. Dans les pays occidentaux, de plus en plus d'entreprises se sont lancées dans la commercialisation de produits dits halal, ce qui n'est pas sans poser la question de la certification. Là aussi, on l'a vu. Alors là, je vais vous présenter quelques diapos avec ces produits-là. Donc on voit déjà apparaître des produits, des produits haram qui deviennent halal. Désolée pour mon accent, je ne suis pas du tout arabophone, mais plutôt turcophone. Donc on voit là sur la diapo, je pense que c'est suffisamment grand pour que vous voyez aussi au fond, des produits comme, on en a parlé hier, donc je passe très rapidement, la bière, le vin, le porc également, il y a commercialisation du porc dit halal, et puis le champagne également, et on en a parlé aussi hier, apparition, alors là c'est tout récent, de sex shop halal, donc en Turquie. Là aussi on l'avait évoqué très rapidement hier. Des produits de beauté ou liés à l'hygiène, des shampoings pour les femmes voilées, un dentifrice, du vernis à ongles, parce que le vernis à ongles traditionnel étant imperméable, eh bien, on ne peut pas garantir du coup une hygiène suffisamment performante quand on se lave les mains si on a du vernis traditionnel. Donc le vernis dit halal vient d'être commercialisé il n'y a pas très longtemps. Gamme de maquillage, produits d'hygiène pour nettoyer les sanitaires, etc. Cette multiplication des produits et la perspective de chiffre d'affaires important conduit certaines capitales européennes ou grandes villes européennes à organiser des festivals et des forums halal. Donc là, vous en voyez quelques-uns avec des articles, évidemment, qui accompagnent ces festivals et surtout des réactions très intéressantes de courriers des lecteurs. Bon, là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Les services aussi halal se diversifient également. Des services halal liés aux technologies de l'information et de la communication. Donc vous voyez là un moteur de recherche qui mise sur le halal. Des applications mobiles aussi qui permettent de voir si un produit, et de signaler aussi si un produit est halal ou non. un téléphone dit coranique, des kits de détection qui permettent à n'importe qui, au grand public, de mesurer aussi le caractère halal d'un produit qui est commercialisé en grande surface, notamment. Les pays musulmans surfent aussi sur la vague du halal pour développer des activités touristiques lucratives. Je crois que cet après-midi, on va avoir une communication sur ce thème. Les biens de première nécessité sont aussi concernés, puisqu'on voit quelques récents articles apparaître sur le cas de logements halal en Australie, sur les médicaments aussi sont concernés avec cette première pharmacie halal, enfin première pharmacie, après ça reste à être vérifié, mais en tout cas voilà, dans les médias on voit apparaître cette thématique là depuis ces articles étant très récents, avril 2012 et mars 2013. Des publicités aussi, vous voyez Halal Box qui est le concurrent des box qu'on connaît ici et qui ont du succès, notamment en période de fête. Donc bien entendu, la diversification et l'augmentation des produits et services halal s'accompagnent de campagnes publicitaires qui investissent tout particulièrement les médias qui sont tournés vers les musulmans. Alors, certains produits font l'objet de controverses de la part d'une pluralité d'acteurs qui jouent le rôle de leader d'opinion. Alors, parmi ces leaders d'opinion, on voit apparaître et surtout s'exprimer dans la presse, dans la presse et sur Internet, des experts déjà. Donc vous voyez ici sur les sites Ouma.com et SaphirNews.com un certain nombre d'experts qui sont sollicités pour ou qui interviennent directement sur certains sujets liés au halal. On voit aussi apparaître des associations de musulmanes spécialisées comme AVS qui a été créée en 91, mais d'autres aussi, des associations de consommateurs. Également, associations de consommateurs musulmanes comme The International Halal Integrity Alliance, comme l'Union française des consommateurs musulmans, l'UFCM, comme l'Association de sensibilisation, d'information et de défense des consommateurs musulmans, mais aussi on voit des associations de consommateurs qui ne sont pas musulmanes, comme l'UFC Que Choisir, qui a pu se positionner aussi sur la commercialisation et de produits et de services halal, et qui intervient aussi parfois ponctuellement dans les médias musulmans. Et puis, parmi ces leaders d'opinion, on peut aussi pointer le rôle des journalistes, à la fois à travers un travail d'investigation, notamment sur des thèmes comme les abus d'entreprise, le scandale de la viande de cheval, le scandale aussi de la viande de porc qui a été retrouvée dans certains produits halal, et des points de vue éditoriaux aussi, comme celui que j'ai mis ici sur la foire au halal, qui est un article très critique, justement. Alors, l'importance des leaders d'opinion sur la formation des opinions publiques a été démontrée depuis longtemps, notamment par les théoriciens des effets limités, et je cite ici Paul Lazarsfeld, Bernard Berenson, Hazel Godet, qui ont défendu l'idée selon laquelle les individus sont pris dans des réseaux sociaux, dans des environnements sociaux, qui les influencent et les structurent. Selon eux, les individus sont beaucoup plus influencés par les leaders d'opinion présents dans leur entourage que par le discours journalistique et médiatique lui-même. Aujourd'hui, et depuis l'étude de Lazarsfeld qui date des années 40, plusieurs choses ont bien sûr changé. D'une part, la diversification de l'offre médiatique. Le secteur médiatique a profondément évolué. Des opinions très diverses s'y expriment, ceci depuis l'apparition des radios libres, puis la privatisation de l'audiovisuel, et aujourd'hui, évidemment, avec la popularisation des TIC, de l'Internet, qui ont encore accéléré ce phénomène. Deuxième élément, les leaders d'opinion sont davantage professionnalisés aujourd'hui et appartiennent parfois à des groupes de lobbying. Plus que jamais, ces leaders d'opinion jouent le rôle d'intermédiaires dans la diffusion des messages, que ceux-ci soient des messages politiques, des messages religieux, strictement religieux, normatifs, ou des messages commerciaux. De plus, des leaders d'opinion apparaissent dans des lieux où on ne les attendait pas, où on ne les voyait pas auparavant, il y a quelques années encore, comme le courrier des lecteurs. Où là, c'est facile aussi de se cacher derrière une identité et derrière un nom factice. Troisième élément, très important, la mobilisation des profanes. Les travaux de recherche sur le web 2.0, notamment sur le web social, ont notamment eu pour mérite d'engager une réflexion sur le rôle des profanes dans la sphère médiatique, notamment les blogs, les images amateurs. Ce rôle est parfois encouragé par les médias eux-mêmes qui font justement appel aux images amateurs, aux vidéos amateurs pour appuyer certains sujets ou pour développer certains sujets. Parfois, les médias ouvrent un espace participatif destiné à leur public aussi. Ainsi, sur le site ouma.com, tout lecteur peut laisser un message ou une information complémentaire au bas de chaque article. Et chacun de ces commentaires ou informations donne lieu à un système de vote sur le même mode que le widget qui permet de liker, de dire si on aime un article, un produit, etc. ou pas. Donc il se dégage ainsi clairement un nombre de personnes leaders qui vont contribuer à orienter les débats. Des débats qui alimentent des controverses, bien entendu. Et comme le souligne Cyril Lemieux dans son article sur l'analyse des controverses, je le cite, « Le plus souvent, celles-ci débordent le cercle des pairs et enrôlent avec elles des forces sociales et des individus situés au-delà du périmètre institutionnel où elles ont pris naissance. » Alors on pourrait dire, pour schématiser, on pourrait simplifier en disant la chose suivante, donc initiés par des experts, propagés par les leaders d'opinion, les controverses prennent leur essor grâce au relais des profanes, donc du grand public. Bon, alors là, ça a été décalé, l'image a été décalée sur la diapo, mais c'est pas grave. Avec donc ici ce widget qui permet de liker, de dire si on aime ou si on n'aime pas un produit, mais aussi un article, et donc de prendre part aux controverses de cette façon-là également. Donc des profanes qui s'expriment désormais, eux aussi, dans la sphère médiatique et qui peuvent prendre, pour certains en tout cas, le rôle de leader d'opinion, puisqu'on voit souvent apparaître, et notamment c'est particulièrement le cas sur le site ouma.com, toujours les mêmes personnes finalement qui interviennent sur différents sujets. Donc ces controverses, elles sont aussi de plusieurs ordres. Florence Bergeau-Blaclair a déjà évoqué dans ses travaux les discours dénonçant des tromperies ou des malversations autour du halal. Les sites web et les forums liés aux communautés musulmanes, de même que les campagnes de presse sur Internet organisées à la suite de la diffusion de reportages télévisés, par exemple sur KFC, qui ont amplifié la rumeur d'arnaque au halal, on voit différents sujets apparaître sur ce thème-là. D'autres marques ont également fait l'objet de ce type de mise en garde. Alors ces controverses, comme je le disais à l'instant, sont de plusieurs ordres. D'abord des controverses éthiques sur le thème « qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Des controverses scientifiques liées notamment à la question de la traçabilité, la question des normes. Encore une fois, je renvoie à tous les débats qui ont eu lieu hier. Comment prouver qu'un produit est halal ou non? Et puis des controverses politiques aussi sur, là aussi, la question de la norme et de la certification, la question de l'abattage des animaux. Donc avec cette question, quelle légitimité du halal dans des pays majoritairement non musulmans? Par rapport au débat politique, là aussi on voit apparaître certains sujets, notamment qui sont de plus en plus médiatisés dans cet espace médiatique particulier que sont les médias musulmans. Impact sociétal des controverses. Maintenant, ce qu'on pourrait dire un petit peu pour résumer, c'est qu'on voit d'abord un impact négatif à travers cette polarisation politique que j'ai évoquée à l'instant. Polarisation politique qu'on connaît en France, notamment avec plusieurs prises de parole, notamment de la part de la droite et surtout de l'extrême droite, et en l'occurrence du Front National, justement sur le débat autour de l'abattage rituel et de l'abattage des animaux. Mais aussi, surtout, des impacts positifs sur lesquels je voudrais insister aujourd'hui. Impacts positifs qui permettent, d'une part, de poser des questions non alors encore débattues dans l'espace public, de parler de sujets tabous, notamment liés à la sexualité, liés au rapport homme-femme, pas uniquement liés à la sexualité, mais dans l'espace public en général. Et plus globalement aussi, la médiatisation du halal renvoie à deux interrogations. D'une part, qu'est-ce qu'être musulman aujourd'hui, en particulier dans des pays majoritairement non musulmans, avec cette question de l'intégration aux codes culturels nationaux, notamment la question de la certification et de la norme, mais aussi la question de la socialisation, comment se socialiser quand on est un musulman dans une société majoritairement non musulmane. Et puis c'est aussi la question de l'intégration de l'identité islamique dans des circuits de consommation occidentaux. Et je renvoie là notamment aux travaux d'Amel Boubaker hein, sur le halal food, hein, la nourriture halal. Et enfin, tout ça renvoie également en troisième lieu à comment être musulman aujourd'hui dans des pays non musulmans, mais aussi comment être musulman dans un espace mondialisé relativement suspicieux à l'égard de l'expression de l'appartenance à la religion musulmane. Alors plusieurs réponses bien sûr de la part des acteurs, mais celle que l'on voit poindre avec succès dans la médiatisation du halal est la revendication identitaire qui exprime une certaine forme de fierté musulmane, qu'on voit apparaître à travers l'expression de cette identité musulmane et le Muslim Pride, donc cette fierté musulmane, qui est un engagement hein, en faveur de la fierté musulmane, qui s'inscrit bien au-delà de la question du halal, comme on le voit ici. Je ne sais pas comment je fais pour revenir à la diapo précédente, mais ce n'est pas grave. Et il me restait juste une petite partie. Dans cette question de comment être musulman, on voit aussi que la revendication identitaire qui passe par le halal montre que le désir de consommation est devenu un trait identitaire important, en particulier chez les jeunes, dans la jeune génération. Pour autant, les réactions dans le courrier des lecteurs montrent une volonté de moralisation. Et ça, c'est particulièrement important. Volonté de moralisation du capitalisme et des activités commerciales. Ce que j'ai pu vérifier aussi, dans le courrier des lecteurs, mais aussi à travers des entretiens avec des journalistes et des fondateurs de médias musulmans, particulièrement en Grande-Bretagne et en Allemagne, qui insistaient sur cette volonté de moralisation du capitalisme et des personnes qui se posaient vraiment moralisateur, hein, justement, des activités commerciales. C'est-à-dire que oui, effectivement, le commerce halal s'inscrit dans une stratégie commerciale et capitaliste, hein, dans une certaine mesure, mais il y a aussi cette volonté de moralisation qui est très présente dans l'esprit, en tout cas, de certains journalistes et de certains leaders d'opinion également, hein, qui ne sont pas des journalistes. Alors, pour conclure, la médiatisation du halal confirme ce que d'autres auteurs hein, voient également poindre, et en l'occurrence donc l'apparition d'une identité halal qui doit être lue comme un phénomène sociologique, hein, c'est-à-dire que c'est pas un phénomène qui apparaît pour lui-même, mais ça renseigne vraiment sur des rapports de force au sein de la société, sur des rapports entre minoritaires et majoritaires. En tout cas, c'est comme ça que moi, je souhaite les lire. On peut les lire autrement, mais en tout cas, c'était l'objet de cette communication. Et puis, la médiatisation du halal aussi nous renseigne également sur les lignes de clivage économiques, politiques et identitaires entre les musulmans eux-mêmes, puisqu'on voit aussi dans ces médias musulmans, particulièrement apparaître des prises de position qui peuvent être extrêmement différentes, qui peuvent être très polarisées, qui peuvent donner lieu à des débats parfois violents entre les différentes personnes qui s'expriment sur le sujet dans ces médias, que ce soit des journalistes hein, qui ne sont pas forcément d'accord entre eux au sein d'un même média, mais aussi bien entendu des lecteurs qui réagissent à certains sujets. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir contribué au débat.